Et je ne suis jamais allé à l'école. C'est le livre l'histoire d'une enfance heureuse d'un enfant qui n'est donc jamais allé à l'école.
Cet enfant, c'est André Stern. Né en 1971 au sein d'une famille unie, il n'a suivi aucun cursus scolaire, ni dans une école, ni à la maison.
Alors beaucoup de débats, de questions se sont posées. Comment a-t-il appris à lire, à écrire, à compter? C'est dans son livre qu'il explique son enfance et sa manière d'apprendre. Et ce matin, il est avec nous. André Stern, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, votre livre « Et je ne suis jamais allé à l'école », c'est un témoignage. Pourquoi avoir décidé de livrer tout cela?
Parce que moi, ça fait des années que j'exerçais mes métiers de musicien et de luthier sans me poser davantage de questions. Mais par contre, on m'en posait beaucoup à cause de ma biographie. Et donc, je me suis mis à répondre à ces questions. Ça a pris plusieurs formes, des formes écrites, ce livre, et puis j'ai répondu physiquement à beaucoup de questions, ce qui a pris la forme de conférences. C'est ainsi que je me suis mis à réfléchir à la chose, et surtout à un statut qui m'a toujours étonné, qui est celui d'exception dans notre paysage éducatif. Je suis présenté comme une exception, je suis mathématiquement, statistiquement une exception, et c'est très étrange pour moi d'être ceci, alors que ce que j'ai vécu, c'est ce qui peut se vivre de plus naturel et que, en gros, ce que j'ai vécu, c'est ce que vivrait n'importe quel enfant qu'on laisse tranquille et auquel on fait confiance.
C'est un peu une éducation à la Capitaine Fantastique, hein, ce film sorti l'année dernière, je crois, où un père élève ses enfants dans la nature, hors du système traditionnel scolaire.
Non, parce que j'ai pas été élevé hors de quelque chose, j'ai pas non plus été élevé du tout, et ça n'était pas contre quelque chose. Ce n'était pas contre l'école que mes parents se sont décidés, mais pour quelque chose, pour ce que Ken Robinson appelle les rythmes et les rituels de l'enfance. Et donc, eux n'avaient pas de compte, mes parents n'avaient pas de compte à régler avec l'école. Donc, c'est pas une mise à l'écart du monde, c'est au contraire laisser l'enfant se livrer à sa disposition naturelle qui est d'aller dans le vaste monde, d'aller vers les autres, les nouveaux visages, les nouveaux paysages. Et donc, loin d'être une soustraction, c'est plutôt laisser l'enfant dans son élément de plein pied. Son élément, c'est le vaste monde. C'est pour ça qu'on est tous venus au monde. Hein. Et donc, c'est encore une autre différence par rapport à tout ce à quoi on pourrait chercher à le comparer. C'est que mes parents, et moi-même en tant que parent de nos jours, ne sont pas partis d'une idée, d'un concept, d'une théorie, d'une hypothèse, d'une expérience personnelle. Bref, ils ne sont pas partis d'eux, ils ne sont pas partis de l'adulte. Et c'est là que la proposition est intéressante d'une manière générale, c'est qu'ils sont partis de l'enfant. Et ça, c'est non pas une méthode, mais une attitude, et c'est d'une attitude nouvelle que je cherche à parler.
Avec cette façon de grandir, d'évoluer, la curiosité, elle a quelle place dans votre vie ?
Regardez celle d'un tout petit enfant et qui absorbe le monde, qui ne peut pas s'en saturer, qui n'arrête pas d'explorer, et ce par un outil fantastique dont nous disposons tous, qui est le jeu et qui est une de mes grandes thématiques. Regardez un enfant et sa curiosité, ce qu'on appelle sa curiosité, ce qui est même parfois teinté de péjoratif. Et vous verrez la place qu'a la curiosité dans la vie. C'est effectivement une des choses qui nous porte le plus. C'est ce que corroboré dorénavant par les neurosciences. J'ai la chance de travailler avec pas mal de scientifiques, dont des neuroscientifiques. La curiosité, ou plus exactement le désir d'aller dans le vaste monde, parce que tout ça sont des synonymes, ça fait partie vraiment de nos dispositions spontanées, de notre équipement de série. Chacun d'entre nous est venu au monde équipé de cela, et encore une fois, je suis loin d'être une exception.
La curiosité, ça suffit à apprendre à lire et à écrire ?
Par exemple, vous parliez de lire et d'écrire, hein, et pas de chanter et danser, par exemple. C'est parce que ça, on a certaines matières qu'on a mises sur un piédestal. Il y a des hiérarchies qui sont fortement enracinées dans notre société. Et donc, on s'inquiète toujours de lire et d'écrire, et il y a d'autres matières que l'on dégrade, du coup, en les mettant pas sur le même piédestal. Alors, lire et écrire, c'est simple, c'est comme d'apprendre une langue maternelle. On l'a tous fait, on n'a pas besoin pour cela d'un rythme, d'une instruction, on le fait tous, mais on le fait pas seul. C'est pas dans le mot autodidacte, j'entends surtout la solitude. On ne le fait pas seul. Vous avez appris une langue maternelle à un moment qui vous était propre, selon un rythme qui vous était personnel, une didactique qui, que personne d'autre n'a jamais employée, sans enseignement, mais vous ne l'avez pas fait seul. Seul, vous n'auriez jamais rien appris, vous n'avez appris que parce que les autres, tout autour, parlaient entre eux et avec vous. Et c'est ainsi qu'on apprend tout, et c'est amusant, parce que lire et écrire sont justement des techniques qu'aucun enfant ne peut manquer d'apprendre. Il n'y a qu'un moment où ça devient douloureux, c'est quand les rythmes et les rituels de l'enfance, hein, je répète comme les nomme Ken Robinson, se heurtent à un rythme et à des rituels différents qui ne sont pas en adéquation, auquel cas ça devient un problème. Et auquel cas l'enfant commence à faire une expérience qui est négative, qui est qu'à l'intérieur du nouveau, de toute rencontre avec quelque chose de nouveau, se cache le danger d'être pris en défaut, d'être examiné et jugé pour une chose que l'on ne sait pas, alors que l'on est plein de choses que l'on sait, et surtout on est plein de la conviction que tout ce que l'on ne sait pas, c'est de la place pour tout ce qui reste à apprendre.
Jusqu'à 9h, format A3.
Nous sommes ce matin dans Format 3 avec André Stern, auteur du livre « Et je ne suis jamais allé à l'école ».
C'est là l'histoire d'une enfance heureuse, faite d'une multitude de rencontres et de découvertes.
André Stern, la question qu'on se pose, c'est que le fait de ne pas avoir été comparé, de ne pas avoir été mis dans une case, ça a été une force pour vous aussi ?
Ça permet de toujours rester dans cet état de l'enfance, qui ne juge pas, qui ne met pas de valeur sur les choses et qui se contente de se sentir la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, ça ne se compare pas aux autres. C'est exemple de compétition, de l'idée d'être bon ou meilleur ou moins bon. Et donc ça donne ce port d'attache qui est la grande nostalgie de chacun d'entre nous. C'est en gros d'avoir un endroit où on est vu. Et on n'a pas besoin de se battre pour pouvoir porter des responsabilités, pour en fait exister. Quand je dis se battre, c'est parce qu'il s'avère une chose importante et un concept que je n'ai terminé de cerner que récemment, mais c'est que chacun d'entre nous porte en lui un enfant blessé. L'enfant blessé, c'est l'enfant auquel on a dit, ben, tel que tu es, tu ne suffis pas, il va falloir que tu changes. Et ça commence très très tôt dans nos vies. Ceux qui sont parents parmi vous reconnaîtront une question qu'on connaît tous et qui a l'air anodine et presque gentille. Mon fils Benjamin n'avait pas 2 jours, donc l'année dernière, que déjà le chauffeur de taxi me l'a posé, cette question. La voici, c'est « Alors il fait ses nuits ?» Alors on connaît toute cette question, on l'a tous entendu, voilà, je vois, il y a du vécu, hein. Le problème, c'est que quand on nous pose cette question, ce qui a l'air, je répète, anodine, eh ben, on peut pas s'empêcher, la prochaine fois qu'on voit notre enfant, il a 2 jours et il comprend surtout l'indicible, hein, c'est le langage derrière, celui qui est sans mots, cette langue que les enfants parlent le mieux. Au moment où nous le rencontrons, dans ce domaine-là, nous ne pouvons pas faire autrement que de lui donner le message suivant, je t'aimerai plus si tu dormais davantage. Autrement dit, ben oui, mais c'est pas anodin.
On n'ose pas le penser, mais des fois quand même. Hein.
Voilà, mais ça veut dire, il faut que tu changes. Tel que tu es, ça ne convient pas. Il faut que tu deviennes. Et cette nécessité de devenir va nous poursuivre une vie durant. Une vie durant, on va nous demander de changer, de devenir, de correspondre à des attentes. Alors qu'en réalité, l'enfant hein, en nous, l'enfant blessé en nous, et puis l'enfant d'une manière générale, ne cherche qu'une chose, c'est que quelqu'un lui dise... Je t'aime parce que tu es comme tu es. Et quand on a pu dire ça à un enfant, d'abord c'est une réconciliation avec l'enfant blessé en nous et ses innombrables blessures j'essaie de faire le compte mais je n'y arrive pas tellement elles sont nombreuses. Et puis surtout ça donne justement cette impression, pour revenir à votre question, d'être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et ça nous soulage de toutes les craintes et de toutes les luttes qu'on a pu vivre jusque-là.
Mais vous avez une enfance heureuse, on le dit, mais vous avez aussi des blessures, parce que la vie apporte ses blessures, quoi qu'on fasse.
Tout à fait, elles font partie de la vie, elles ne sont pas à craindre, justement, lorsqu'on a ce port d'attache, c'est-à-dire ces quelques lieux qui ne sont pas géographiques, où justement on est aimé pour ce que l'on est, et après il est facile d'aller dans le vaste monde, puisque c'est notre disposition, et d'y rencontrer toutes les difficultés, les crises, les douleurs, les méchancetés du monde, car elles sont présentes, sans pour autant en perdre son équilibre, puisqu'on le tient en soi par ce port d'attache. Pour le résumer, c'est simple, hein, Thierry Pardoe, un auteur qui s'intéresse beaucoup au sujet, dit, ben, un bateau qui a un port d'attache, eh bien, il navigue, et s'il n'a pas de port d'attache, il dérive.
Vous le disiez au début de cet entretien, Dresden, vous êtes une exception. Est-ce que, pour vous, il faudrait que l'exception devienne la règle ?
Non, parce que je ne suis pas du tout là comme un défenseur d'une méthode. Je ne fais pas l'apologie d'une méthode et la critique d'une autre. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas l'ennemi scolaire numéro un et je travaille beaucoup, beaucoup avec des gens qui font et qui donnent l'école. Non, je ne pense pas que l'on puisse généraliser quoi que ce soit. J'ai même un conseil à vous donner, en dehors de celui de ne pas écouter de conseils, y compris celui-ci. C'est que si quelqu'un, prétend avoir une solution universelle, avoir trouvé la solution, et puis si vous l'appliquez, et en général, il y a une formation en quelques modules. Si vous l'appliquez, vous serez heureux et vos enfants aussi. Moi, mon conseil, c'est prenez la fuite, ça ne peut pas exister. En revanche, ce changement d'attitude, cette réconciliation avec l'enfant blessé, etc., ça nous concerne tous. Ça peut s'appliquer partout. Et une attitude, comme ce n'est pas une méthode, et ben ça s'applique à l'école, à la maison, dans la rue, dans les arbres, dans les magasins, où vous voulez. C'est une question d'attitude. Et ce changement d'attitude, il concerne toute une société, parce que notre habitude face à l'enfance, c'est de prononcer une motion de censure, une absence de confiance. Et la proposition de cette nouvelle attitude, que j'appelle l'écologie de l'enfance, c'est justement de faire confiance.
Et puis vous le dites aussi, l'argent et le niveau intellectuel n'a rien à voir là-dedans. Tout parent, en fait, peut se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ?
De partir de l'enfant et pas d'eux-mêmes, et c'est tout. C'est une question, c'est simple. Quand je dis que c'est vraiment une question d'attitude, c'est qu'effectivement, il ne faut pas attendre les circonstances adéquates, c'est attendre indéfiniment. Hein. Mes parents n'ont pas attendu que les circonstances soient réunies pour respecter les rythmes et les rituels de l'enfance. Ils ont pris cette décision, puis inventé les circonstances qui rendent cela possible. C'est ce que font en gros toutes les personnes qui sont nos héros de nos jours. Hein. C'est ne pas attendre que les circonstances soient propices. Et donc, c'est de prendre une décision, pour une raison ou une autre. Mes parents, c'était pour donner un exemple, parce que nous sommes la seule espèce qui réveille ses enfants. Et que pour eux, c'était inenvisageable de le faire. Donc, il y a toute une ribambelle de décisions à prendre derrière. Et puis ensuite, je n'ai pas de conseils à donner, si ce n'est de prendre la fuite si des gens veulent vous donner des conseils. Mais en tout cas, je peux vous recommander de changer d'attitude et au lieu d'avoir la crainte de dire à l'enfant « tu ne suffis pas, il faut changer », ben, il suffit finalement de dire à l'enfant « je te fais confiance ». Je t'aime parce que tu es comme tu es, tu fais ce que tu fais. Ça va surtout changer notre vie à nous, et puis ça permettra à l'enfant de se livrer à ses dispositions spontanées.
Merci beaucoup André Stern, merci d'avoir été avec nous. On trouvera toutes les informations vous concernant et concernant votre livre sur la page de Format 3. Très belle journée.
On s'enfuit, mais pas parce que vous nous avez donné des conseils. Belle journée.